les questions orales.
Bonjour, Stéphanie.
Et pour la première question orale, je passe la parole à monsieur le député Romain Schaer.
La première fois par Éric Deblaire, élu à la présidence du Parlement.
Monsieur le président, madame la ministre, messieurs les ministres, chers collègues. Suite au budget 2020 accepté, le Parlement a donné une mission claire au gouvernement de se faire des économies au niveau du personnel de l'État. Le gouvernement peut-il nous dévoiler les pistes étudiées ou pense-t-il compenser en encaissant les amendes d'eau auprès des automobilistes, vu la très forte activité tant du côté de la grosse Bertha que des trépieds ou des lasers, bien entendu sous le couvert de la prévention. Je remercie le gouvernement de sa réponse.
Je vous remercie, monsieur le député. Pour la réponse du gouvernement, je passe la parole à madame la ministre Nathalie Bartolo.
Monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, effectivement, comme vous le rappelez, le Parlement a pris une décision en décembre dernier de réduire la masse salariale de 1,5 million. Le gouvernement, en tant qu'organe exécutif, va bien évidemment exécuter cette décision. Nous sommes là pour cela. Ce que je peux vous dire à ce stade, c'est que lors de sa première séance, le gouvernement a déjà été nanti d'un certain nombre de pistes pour réaliser cette économie. Au besoin, nous informerons la CGF des pistes retenues pour tendre à réaliser cette mesure. Et quoi qu'il en soit, monsieur le député, vous pouvez être assuré, le gouvernement a bien compris l'injonction du Parlement, va mettre en œuvre la mesure. Et puis, accessoirement, je peux vous assurer que les amendes que vous avez mentionnées ne compenseront en aucun cas la mesure décidée par le Parlement.
Merci, madame la ministre. Quelle est votre appréciation, monsieur le député ? Monsieur le député Romain Schaer est très satisfait de la réponse du gouvernement. Pour la deuxième question orale, je passe la parole à madame la députée Suzanne Maître.
Monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, madame et messieurs les ministres. En novembre 2017, les états généraux de la santé organisés par le département de la santé publique dressaient un large portrait des problématiques liées à la santé dans notre canton. Bien des pistes étaient évoquées pour juguler la hausse des primes maladie, dont les 38 mesures proposées par un groupe d'experts au Conseil fédéral. 2 ans plus tard, il faut bien se rendre à l'évidence, très peu de mesures concrètes ont été mises en place et nos primes sont toujours aussi exorbitantes. Plusieurs cantons, Romans, Vaud, Genève, Neuchâtel la semaine dernière et le Tessin, se mobilisent les uns après les autres pour demander à l'Assemblée fédérale de renforcer le rôle des cantons et s'assurer une meilleure adéquation des coûts et des primes, voire la possibilité de créer une institution cantonale, régionale ou intercantonale. Il y a bien urgence à proposer des solutions pragmatiques, et les cantons ont un rôle important à jouer face à l'immobilisme des chambres fédérales. En sachant qu'en 2014, les Jurassiennes et les Jurassiens ont accepté l'initiative fédérale pour une caisse publique d'assurance maladie, le gouvernement jurassien est-il prêt aujourd'hui à s'engager pour rejoindre les cantons romands dans leur volonté de prendre en main les coûts de la santé et par ricochet les primes des caisses maladies? Je remercie le gouvernement pour sa réponse.
Merci, madame la députée. Pour la réponse du gouvernement, je passe la parole à monsieur le ministre Jacques Guerber.
Jacques Guerber, ministre
monsieur
de l'économie
le président, mesdames et messieurs les députés, chers collègues, alors effectivement, madame la députée, dans ce grand et vaste chantier et domaine de la santé, nous avons beaucoup de gesticulations médiatiques de certains responsables cantonaux. Je ne partage pas votre appréciation sur le très peu de mesures concrètes. Nous travaillons dans le terrain à la maîtrise des coûts. La liste notamment ambulatoire stationnaire en est une preuve dans le canton du Jura. Vous avez peut-être vu que le gouvernement jurassien a communiqué hier soir à 5 heures sa décision d'hier concernant les 3 initiatives en matière fédérale pour améliorer la transparence et le pilotage dans le domaine de l'assurance maladie. Ce n'est pas une initiative de certains cantons, mais c'est une initiative coordonnée au sein de la classe de la conférence des affaires sanitaires et sociales latins, des cantons latins, sur proposition en premier du Tessin, et nous avons pris la décision que chaque canton mènerait dans les procédures qui lui sont propres le processus pour amener ces trois initiatives au niveau fédéral. Le Parlement sera donc nanti de ces trois initiatives et vous aurez l'honneur, le plaisir, Madame la Présidente, la Commission de la Santé, de les traiter. J'espère que ces trois initiatives seront traitées très rapidement pour que nous puissions être le deuxième canton dont le Parlement a pris les décisions et transmis ces trois initiatives au niveau fédéral.
Merci, Monsieur le Ministre. Quelle est votre appréciation, Madame la députée ? Madame la députée Suzanne Maître est satisfaite. Pour la troisième question orale, je passe la parole à Monsieur le député Philippe Egertsviller.
Philippe Egertsviller, député PC.
Monsieur le Président, Madame et Messieurs les Ministres, chers collègues, au début de l'année, la BNS a annoncé avoir fait un bénéfice record avec un montant de près de 50 milliards de francs. Conjointement, il devrait annoncer au début du mois de mars une restitution de 2 milliards, voire plus, à la Confédération via à l'ensemble des cantons. De plus, la BNS pourrait restituer des montants tout aussi importants lors de ces prochaines années. Ces informations plutôt plaisantes peuvent-elles nous être confirmées par le gouvernement ? Et peut-il nous donner davantage d'informations sur le sujet ? Je remercie le gouvernement de sa réponse.
Merci, monsieur le député. Pour la réponse du gouvernement, je passe la parole à monsieur le ministre Martial Courtais.
Martial Courtais.
Oui, monsieur le député, mesdames et messieurs, monsieur le président, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, chers collègues, pour la répartition de l'exercice 2019 de la BNS, nous n'avons donc pas, et vous le dites dans votre propos au niveau de la temporalité, nous n'avons pas de confirmation à ce jour si un versement supplémentaire aux 2 milliards sera donc effectué, et si oui, de combien. D'ailleurs, si une bonne nouvelle devait effectivement arriver, elle concernerait l'année 2020, il faut peut-être le préciser ainsi, et donc pas le bouclement des comptes dont nous nous occupons actuellement. Pour les années à venir, vous évoquez également cela, la nouvelle répartition pour un éventuel montant supérieur à ces 2 milliards devrait être formalisée dans la nouvelle convention qui commencera donc dès 2021. Des premiers échanges ont bien sûr déjà eu lieu pour défendre les intérêts de notre canton. C'est d'ailleurs d'actualité puisque je ne me rends pas plus tard que ce vendredi à la conférence des directeurs cantonaux des finances et nous y aborderons bien sûr cette question.
Merci, monsieur le ministre. Quelle est votre appréciation, monsieur le député ? Monsieur le député Philippe Egertsviller est satisfait. Pour la quatrième question orale, je passe la parole à monsieur le député Nicolas Maître.
Nicolas Maître, député PS.
Monsieur le Président, chers collègues, madame et messieurs les ministres, même si la gigantesque panne du réseau Swisscom du vendredi 18 janvier aura presque passé inaperçue pour un bon nombre de citoyens jurassiens, il n'en demeure pas moins que ce dysfonctionnement d'une ampleur inédite et nationale de plus de 2 heures aura donné des sueurs froides et mis une grosse pression sur notre police jurassienne. Puisque les numéros d'appel d'urgence 117, 118, 144 étaient aussi affectés par ce couac que Swisscom n'a même pas daigné spontanément commenter. À l'heure du bilan, le lendemain dans la presse, il n'est fait heureusement mention d'aucun problème majeur ou de cas critique sur le territoire jurassien durant ce laps de temps qu'aura duré cette panne. Il n'en demeure pas moins que l'on puisse s'imaginer tous les scénarios, même catastrophiques, lors de pareilles interruptions. Certes, il existe des lignes d'urgence et quelques processus sont prévus afin d'être mis en place rapidement dans des cas similaires. Mais comment en aurait-il été si la panne avait duré davantage de temps ou à l'extrême si la population avait commencé à paniquer ? Pas sûr que le réseau Polycom soit suffisant pour absorber et gérer ce cas de figure. Il est légitime de se questionner suite à cette immense perturbation sur le réseau de Swisscom ou pour d'autres opérateurs qui pourraient subir une panne similaire. D'où ma question au gouvernement. Quelles leçons tire-t-il de cette malheureuse expérience et cas échéant ? Comment pense-t-il anticiper à l'avenir les dangers encourus de ne plus pouvoir atteindre les numéros d'urgence, police, pompiers et sanitaires si cela devait se reproduire ? Je remercie le gouvernement de sa réponse.
Merci, monsieur le député. Pour la réponse du gouvernement, je passe la parole à madame la ministre Nathalie Bartolo.
Monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, chers collègues, comme vous l'avez indiqué, monsieur le député, la coupure de Swisscom qui est intervenue le 17 et non le 18, comme vous l'avez précisé dans votre question, a été d'une ampleur historique jamais constatée auparavant en Suisse. Pour le canton du Jura, hormis la suppression des lignes fixes, cette coupure a eu comme conséquence non seulement que la centrale de la police, qui réceptionne les numéros d'urgence 112, 117, 118, et la centrale CASU de Fribourg, qui réceptionne les appels du 144, ne pouvait plus être atteinte par les citoyennes et les citoyens. Ces mêmes centrales ne pouvaient, quant à elles, non plus déclencher de secours par téléphone. Seuls les SMS, les communications par radio via le système Polycom et quelques rares lignes fixes pouvaient encore être utilisées. Dès qu'il a été avisé de cette avarie, le commandement de la police cantonale a immédiatement déclenché une cellule de crise qui a œuvré dans le domaine technique. Cette cellule a notamment pu libérer le numéro d'une ligne fixe qui fonctionnait encore. Elle a pu également communiquer par le biais de la radio, des réseaux sociaux et de l'application Alerte Suisse. Au total, ce sont une vingtaine de personnes de la police cantonale qui ont travaillé d'arrache-pied durant cette coupure de 2 heures environ. Grâce à beaucoup de chance, mais également grâce aux mesures d'urgence mises en place, toutes les interventions de secours ont pu être assurées sur le territoire cantonal durant cette panne générale. S'agissant des causes, l'entreprise Swisscom est relativement avare en explications, puisque l'entreprise indique que c'est un composant réseau défectueux qui a été la cause de l'avarie et que le problème a été résolu en redémarrant le système. On doit bien sûr se poser la question si nos centrales d'urgence sont en l'état trop dépendantes de l'entreprise Swisscom et si des contrats redondants de téléphonie ne devraient pas être conclus avec les concurrents de Swisscom. La police cantonale, mais surtout le service informatique, ont immédiatement entamé des réflexions sur cette question. À ce jour, on peut déjà constater que cette entreprise a une situation quasi monopolistique dans le domaine de la téléphonie d'urgence et qu'elle dispose d'un savoir-faire qui est inégalé sur le territoire suisse. On peut également affirmer avec une quasi-certitude que même si la centrale d'engagement de la police cantonale avait été reliée auprès d'un autre opérateur, elle aurait également été impactée par cette coupure tellement le problème se trouvait à la base, à la racine, à l'arborescence de la téléphonie suisse de manière générale. Mais comme je l'ai dit, le service informatique et la police cantonale examinent actuellement les mesures techniques qui pourraient être prises pour atténuer au maximum le risque d'une nouvelle coupure générale de la téléphonie d'urgence et de la téléphonie fixe. En parallèle, un examen est également mené quant à la possibilité d'équiper les communes d'une radio Polycom ou d'un téléphone satellitaire. Mais bien évidemment, là, vous l'imaginez, il y a des questions de coûts qui doivent être analysées. Finalement, j'ai encore demandé au commandant de la police cantonale d'examiner dans quelle mesure les coûts directement provoqués par cette coupure pouvaient éventuellement mettre à charge de Swisscom, puisque ce ne sont pas moins de 20 personnes qui ont travaillé d'arrache-pied pendant 2 heures, des milliers de SMS qui ont été envoyés. Donc là aussi, il y a un coût que peut-être l'opérateur pourrait être appelé à prendre en charge. Voilà, monsieur le député, les explications que je suis en mesure de vous fournir au sujet de cette coupure du 17 janvier dernier. Plusieurs questions sont donc encore ouvertes, plusieurs enseignements doivent encore être tirés, mais ce qui est certain, c'est que la réaction de la police cantonale et des partenaires a été tout à fait adéquate et opportune en fonction d'une problématique qui ne se situait pas qu'au niveau cantonal.
Merci, madame le ministre. Quelle est votre appréciation, monsieur le député ? Monsieur le député Nicolas Maître est satisfait de la réponse. Question numéro 5. Je passe la parole à madame la députée Florence Bösch.
Florence Bösch, députée PDC.
Monsieur le président, madame et messieurs les ministres, chers collègues. À l'entrée de Montigny, en venant de Buy, une entreprise de démolition s'étend petit à petit, située très proche des premières habitations. Visuellement, c'est un dépôt de carcasses de voitures, un lieu de récupération de tout déchet, pneus, plastique, amiante et de broyage de bois. D'après les voisins et depuis plusieurs années, les nuisances sont réelles et importantes. Bruit, poussière, travail en dehors des heures habituelles, émissions polluantes de carburant de camions et de vieilles machines, etc. Il y a une année et demie, une première plainte a été déposée à la commune de Basse-Alène par plusieurs habitants, suivie d'une seconde à l'Office de l'environnement. À ce jour, les problèmes de voisinage, au lieu de s'atténuer, semblent au contraire s'aggraver, avec même des conséquences importantes sur la santé des habitants proches et sur leur qualité de vie. D'où ma question, le gouvernement est-il au courant de cette situation conflictuelle entre cette entreprise de démolition à Montigny et les habitants proches, et quelle est sa position à ce sujet? Je remercie le gouvernement pour sa réponse.
Merci, madame la députée. Pour la réponse du gouvernement, je passe la parole à monsieur le ministre David Héret.
David Herret, ministre.
Monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, chers collègues, alors oui, madame la députée, cette situation est connue en tout cas de l'Office de l'Environnement, puisque des échanges ont eu lieu entre la commune, certaines personnes qui se plaignent des nuisances et l'Office de l'Environnement. Et je peux vous rassurer, cette entreprise, bien évidemment, qu'elle est sur un site en zone mixte, donc qui permet des activités économiques, également qui peuvent générer des nuisances. Cette entreprise a subi des contrôles à la fois de l'Office de l'Environnement et également de l'Association Suisse du Recyclage, qui est venue observer le fonctionnement de cette entreprise et qui a observé également que cette entreprise travaille de façon conforme avec quelques petits détails à corriger ou à améliorer qui sont mis en œuvre par l'entreprise. Et effectivement, comme vous l'avez dit, Madame la députée, il s'agit d'un problème avant tout de voisinage pour lequel il est difficile au niveau du gouvernement ou du service de l'Office de l'Environnement de le résoudre. Et là, c'est vrai que c'est un domaine où l'autorité communale doit très certainement s'impliquer, comme elle le fait probablement, essayer de trouver une solution la meilleure possible pour les voisins qui sont en zone d'habitation et qui sont donc contigus à cette zone mixte qui, effectivement, génère des nuisances sonores ou autres. Et c'est une réalité à laquelle nous faisons face. Et peut-être qu'au niveau de l'autorité communale, une des pistes serait peut-être de proposer un autre site pour l'entreprise qui pourrait être plus propice et plus adéquat, notamment pour les personnes qui habitent en zone d'habitation. Voilà donc ce que je peux vous dire, Madame la députée, pour ce sujet.
Merci, Monsieur le ministre. Quelle est votre appréciation, Madame la députée ? Madame la députée Florence Bosch est partiellement satisfaite. Pour la sixième question orale, je passe la parole à Monsieur le député Didier Spies.
Didier Spies, député UDC.
Monsieur le Président, chers collègues, Madame et Messieurs les ministres, suite aux réponses reçues à la question écrite numéro 32-36 concernant le projet Pompier JU 2020, je ne pouvais pas être satisfait et maintenant, les différents problèmes en lien avec ce projet sont ressortis dans les médias. On apprend pour commencer que l'exécutif cantonal, donc le gouvernement jurassien, a imposé un secret de fonction concernant la réorganisation des sapeurs-pompiers jurassiens. Mesdames et messieurs, pour un sujet aussi important, puisqu'il est notamment question de la sécurité de la population jurassienne, de l'efficacité des interventions lors de sinistres et la préservation des biens situés sur notre territoire cantonal, du financement et des coûts de fonctionnement, nous, citoyens contribuables, avons le droit d'être informés correctement sur l'avancée du projet. Le groupe UDC, en se basant sur les nouvelles normes de transparence, demande à ce que la population jurassienne, les communes et les personnes directement concernées, comme les pompiers, puissent avoir connaissance de l'avancée du dossier et donc du contenu du rapport intermédiaire du 30 août 2019 et du complément de rapport du 30 septembre 2019. D'où ma question au gouvernement. Est-ce que le gouvernement jurassien met ces deux documents, rapport intermédiaire et complément de rapport, ouvertement et surtout rapidement à disposition de la population jurassienne? Je remercie le gouvernement pour sa réponse.
Merci, monsieur le député. Pour la réponse du gouvernement, je passe la parole à madame la ministre Nathalie Barthoulot.
Oui, monsieur le président, mesdames et messieurs les députés, concernant ce dossier sensible qui est le dossier lié à la réorganisation des pompiers sur le canton du Jura, ce que je peux vous dire à ce stade, c'est que le gouvernement n'a jamais exigé un secret de fonction par rapport aux travaux des commissions. Mais il est vrai aussi, et vous le savez, monsieur le député, que lorsque l'on travaille en commission, les situations, enfin les positions par rapport à l'avancement du dossier peuvent évoluer. Et parfois, si on diffuse à tous azimuts l'appréciation qui est faite à un moment donné du dossier, on peut arriver parfois sur des situations de crispation qui sont inutiles parce qu'après la séance suivante ou les séances suivantes, on arrive déjà peut-être à une piste ou à une solution qui correspond mieux aux travaux du groupe. Donc à ce stade, nous n'avons pas mis un veto sur la communication par rapport à ce dossier. Je dois vous dire que je l'ai repris au début du mois de décembre, que je vais bien évidemment organiser une séance pour bien comprendre les tenants et les aboutissements de ce dossier. Mais quoi qu'il en soit, je peux vous assurer que de toute façon, la population, respectivement les communes, seront informées en toute transparence de l'évolution de ce dossier qui doit bien sûr être co-construit avec tous les partenaires concernés par la question de la défense du feu.
Merci, Madame la Ministre. Quelle est votre appréciation, Monsieur le député ?
Partiellement satisfait.
Monsieur le député Didier Schmitz est partiellement satisfait. Pour la septième question orale, je passe la parole à monsieur le député Jean-Daniel Ecker.
Jean-Daniel Ecker, député.
Monsieur le président, madame, messieurs les ministres, chers collègues, le tourisme du clic via Airbnb et la simplification de la perception de la taxe de séjour. À l'instar de plusieurs cantons alémaniques, Fribourg a conclu récemment une convention sur la taxe de séjour avec Airbnb. La plateforme de location percevra automatiquement cette taxe lors d'une réservation d'un bien immobilier à partir du 1er février prochain et la reversera à l'Union fribourgeoise du tourisme. Avec cette solution numérique, Airbnb vise à réduire la charge administrative pour les organisations touristiques et les hôtes. Selon le quotidien jurassien, le Jura est la deuxième destination de Suisse après les Grisons à avoir inscrit Airbnb dans ses canaux de distribution, et ce, depuis la fin de l'année passée. Actuellement, 430 propositions sont à disposition des internautes. Dans le Jura, selon une étude suisse, 40% des nuitées sont aujourd'hui réservées en ligne au travers de plateformes numériques. Ainsi, un logement qui est proposé très régulièrement à la location peut entrer en concurrence directe avec les offres hôtelières, et ceci dans les conditions qui n'ont rien à voir avec les obligations légales qui régissent la branche hôtelière. Avec ce système de perception de la taxe de séjour, on réalise un peu plus d'égalité de traitement pour tous les hébergeurs du canton du Jura. D'où ma question au gouvernement. Le canton du Jura a déjà pris des dispositions et des contacts pour signer une convention avec Airbnb comme Fribourg et d'autres cantons. Je remercie le gouvernement pour sa réponse.
Merci, monsieur le député. Pour la réponse du gouvernement, je passe la parole à monsieur le ministre Jacques Gerber.
Monsieur le président, mesdames et messieurs les députés, chers collègues, monsieur le député, la situation du canton du Jura est, dans ce dossier particulier, moins préoccupante que celle dans d'autres cantons. Peut-être au niveau des chiffres, 108 objets aujourd'hui sont sur la plateforme Airbnb pour le canton du Jura. Ça représente, je n'ai pas tout à fait le même chiffre, ça représente 330 lits au niveau du canton du Jura. Si on met ça en parallèle avec des cantons tels que le Valais ou le canton de Vaud, on arrive dans le canton de Vaud à plus de 8000 lits et au Valais à plus de 28000 lits. Donc on voit que nous ne nous trouvons pas du tout dans la même situation au niveau du canton du Jura. La situation donc de notre canton à ce stade ne justifie pas de démarches supplémentaires à celle entreprise. Il faut savoir que par rapport à ces 108 prestataires, on a plus de 93% de ces derniers qui payent déjà aujourd'hui, sans avoir quelconque arrangement avec Airbnb, plus de 93% payent déjà la taxe d'hébergement. Et pour le solde, il y a un suivi qui est en cours, assuré, pour justement faire que ces personnes paient également la taxe de séjour, et soit, vous avez raison, au même niveau de concurrence que les prestataires hôteliers. Alors, ce qui justifie cela dans le canton du Jura, tout d'abord, on scanne la plateforme Airbnb une fois par année pour justement contrôler que ces derniers paient la taxe. On peut le faire justement parce que le nombre est relativement faible. Ensuite, les collaborations avec les communes sont bonnes. Ces dernières connaissent quelque part plus ou moins l'offre qui se trouve sur leur territoire. Et puis peut-être de manière plus étonnante, le Jura Pass, en effet, le Jura Pass qui offre la gratuité lorsque l'on s'héberge dans le canton du Jura en lien avec les transports publics, ben généralement, c'est à travers les plaintes des clients de Airbnb qui ne peuvent pas bénéficier de cette offre que l'on apprend que peut-être un prestataire ne paye pas la taxe, parce que si vous payez la taxe, vous avez accès justement à cette prestation. Ceci étant dit, à ce stade, ça nous suffit pour gérer la situation au niveau cantonal, mais évidemment, avec Jura Tourisme, nous suivons la situation, et bien sûr que si cette dernière devait évoluer, et notamment les prestations devaient augmenter, bien sûr que nous envisagerions peut-être de négocier avec Airbnb le même contrat que Fribourg, tout en sachant que ce dernier n'est pas que
facile à mettre en œuvre et amène aussi des aspects compliqués dans le suivi, notamment des offres sur la plateforme. Mais ceci étant, nous suivons la situation, sachant qu'aujourd'hui, ce n'est pas vraiment un problème dans le canton du Jura.
Merci, Monsieur le ministre. Quelle est votre appréciation, Monsieur le député? Monsieur le député, Jean-Daniel Ecker est satisfait. Pour la question orale suivante, je passe la parole à Monsieur le député Alain Schweingruber.
Monsieur le Président, chers collègues, Madame et Messieurs les ministres, il est patent que notre canton a d'année en année des grandes difficultés à boucler son budget, qui est systématiquement déficitaire. D'aucuns prétendent que cela est notamment à une dimension disproportionnée et inadéquate de notre fonction publique. Or, dans le cadre des prochaines votations populaires fédérales, les Jurassiennes et les Jurassiens auront à se prononcer sur une initiative dite « davantage de loyers abordables ». Nous sommes très nombreux à penser que cette aberrante initiative, en cas d'application, serait hautement préjudiciable non seulement aux propriétaires, mais également aux locataires, compte tenu des effets induits pervers que son application mettrait en œuvre. Un fait est que si elle devait être mise en application, elle obligerait en particulier les cantons, et notamment évidemment le canton du Jura, à augmenter encore sa charge de personnel, ce que personne ne souhaite évidemment. Bien que le gouvernement n'ait pas à se positionner sur cette initiative, j'imagine qu'il a déjà dû examiner cette problématique. Ma question est donc la suivante. Le gouvernement peut-il, le cas échéant, nous confirmer que la mise en œuvre de la nouvelle disposition constitutionnelle prévue par l'initiative « Davantage de loyers abordables » induira de nouvelles tâches pour l'État et, partant, le contraindra à accroître encore le nombre de fonctionnaires de la République et canton du Jura?
Merci, Monsieur le député. Pour la réponse du gouvernement, je passe la parole à Monsieur le ministre Jacques Gerber.
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, chers collègues, vous avez raison, Monsieur le député, pour intervenir dans une votation fédérale, la décision du gouvernement jurassien doit répondre à certains critères qui ne sont effectivement pas remplis dans le cas présent de cette initiative. Donc vous comprendrez que ce n'est pas à travers une réponse à une question orale que le ministre en charge de ce dossier prendra position sur l'initiative en question. Par contre, même si aujourd'hui les différents critères et détails de mise en œuvre de cette initiative ne sont pas encore connus, à l'heure actuelle, les différents services qui pourraient être pourraient voir augmenter leur charge. On fait part de certains commentaires par rapport à cette mise en œuvre et effectivement, ils estiment une augmentation des coûts administratifs si cette dernière venait à être acceptée, notamment pour établir et tenir en continu un inventaire exhaustif des conditions contractuelles et de la situation de l'offre locative sur le territoire cantonal. Deuxièmement, pour instaurer une coordination interne entre les communes, les services de l'État et le service porteur de la Confédération, pour fournir ensuite des informations supplémentaires dans le cadre des processus, notamment la délivrance des permis de construire et bien sûr également les subventions, et puis également de suivre en continu les baux à loyer des locataires dont le propriétaire a fait une demande de permis de construire ou une demande de subvention. Il faut savoir qu'en 2018, nous avons plus de 860 nouveaux logements dans le canton et environ 200 demandes et décisions au niveau de l'assainissement énergétique. Donc on voit que ces différentes prestations à offrir à elle seule augmente la charge administrative, ça paraît assez évident. Elle est estimée par les services en charge entre 2 et 3,5 EPT répartis sur différents services de l'État. Donc on peut considérer effectivement
que c'est relativement important par rapport au travail qui serait demandé cas échéant.
Merci, Monsieur le ministre. Quelle est votre appréciation, Monsieur le député? Monsieur le député Alain Schweingruber est satisfait. Pour la 9e question orale, je passe la parole à Monsieur le député Rémi Meury.
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, récemment, des délégations de notre Parlement se sont rendues à Berne pour défendre des initiatives cantonales en matière fédérale. Ce mois, ce sont nos collègues Loïc Doblet et Fabrice Maca qui sont allés défendre le texte accepté par 47 voix contre 4 par notre législatif, contestant l'accord avec le Mercosur. En octobre 2019, c'est le député Baptiste Laville, seul, qui a entrepris la même démarche pour défendre l'initiative demandant d'exclure l'huile de palme des accords de libre-échange avec l'Indonésie et la Malaisie, une motion interne acceptée par 50 voix sans opposition par le Parlement jurassien. Nous regrettons au passage que nos représentants actuels au Conseil des États n'aient pas soutenu cette initiative jurassienne lors de son passage en décembre dans la Chambre haute. On vous invite par ailleurs, chers collègues, à signer le référendum contre cet accord de libre-échange. Vous avez reçu une feuille de signature à cet effet. Mais la question ne porte pas sur ce regrettable aspect qui s'est passé dans la Chambre haute, mais bien que l'on pourrait imaginer que l'État se charge de faire un rien de publicité auprès de nos élus fédéraux pour soutenir nos initiatives cantonales en matière fédérale. La question qui se pose surtout, et depuis longtemps, car on pourrait citer bien d'autres exemples, est de constater que le Jura est le seul canton à envoyer uniquement des députés pour défendre ces textes fondamentaux adoptés par le pouvoir suprême qu'est le Parlement. Renseignements pris auprès d'autres cantons, il apparaît qu'en pareilles circonstances, les députés porteurs de l'initiative sont accompagnés devant la Commission fédérale par des représentants de l'autorité exécutive, un chef de service, voire un conseiller d'État. Dans les deux cas cités pour le Jura, un ou une représentante du département de l'environnement aurait été bienvenue. Ainsi, le gouvernement entend-il changer ses habitudes à l'avenir en accompagnant les délégations du Parlement devant les chambres fédérales afin que celles-ci sachent que ces importantes interventions constituent bien des démarches de l'État jurassien dans son ensemble.
Merci, Monsieur le député. Pour la réponse du gouvernement, je passe la parole à Monsieur le ministre. Martial Courtais.
Oui, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, chers collègues. Vous dites, Monsieur le député, qu'il aurait été judicieux de faire un brin de publicité. Sachez que notre organisation actuelle, qui peut toujours être remise en question, bien évidemment, mais notre organisation actuelle fait que, avant chaque session du Parlement fédéral, les élus jurassiens nous rencontrent dans une séance. Nous invitons les 4 élus jurassiens à rencontrer le gouvernement incorporé pour prendre point par point les éléments qui concernent les intérêts du Jura, et c'est bien sûr ce que nous souhaitons défendre. À l'occasion, en passant tous ces sujets en revue, l'un ou l'autre ministre concerné, de par son département et les sujets idoines, mettra en place, j'ai envie de dire, un plan de bataille pour se rendre, et ça a été le cas, à plusieurs reprises où des ministres jurassiens se sont rendus à Berne au Palais fédéral pour défendre l'un ou l'autre dossier, pour faire intervenir notre réseau également. Alors, bien sûr, avec notre force proportionnée à nos 4 élus sur l'ensemble du Parlement fédéral, mais toujours est-il que ce travail se fait. Alors, l'élément que vous évoquez peut-être ne vous a pas satisfait, mais globalement, nous avons ce souci-là. Et nous avons même déjà rencontré les 4 élus fédéraux, dont de nouveau, et dans une séance en fin d'année passée, pour justement préparer notre façon de travailler ensemble. Donc, dans ce sens, bien sûr, toutes les nouvelles idées peuvent être les bienvenues, mais je dirais que nous sommes conscients de ça et que nous prenons à chaque fois le temps et lors de ces séances préparatoires pour passer ces dossiers en revue et défendre nos intérêts jurassiens.
Merci, Monsieur le ministre. Quelle est votre appréciation, Monsieur le député? Monsieur le député Rémi Meury est partiellement satisfait. Pour la 10e question orale, je passe la parole à Monsieur le député Gabriel Voirol.
Monsieur le Président, Madame et Messieurs les ministres, la RTS a récemment mis en avant des situations particulièrement malheureuses et pouvant incontestablement constituer un frein à l'embauche de personnel féminin. En effet, certaines entreprises se sont vues pénalisées dans leurs primes par leur assurance perte de gain du fait que plusieurs personnes, dans la même année et dans leur entreprise, ont été au bénéfice de prestations en lien avec la naissance d'un enfant. Une telle situation est, vous en conviendrez, plus que regrettable, une grossesse ne devant pas être assimilée ni à une maladie ni à un accident. Cette situation peut donc constituer un frein à l'engagement de personnel féminin, ce qui n'est pas acceptable. Il s'agit manifestement d'une problématique fédérale. Nous pourrions imaginer déposer une motion interne, ce qui se fait actuellement, et on a eu une question tout à l'heure par M. le député Rémy Meury, mais nous sommes, vous le savez, plus que réservés quant aux chances de succès de ce type d'intervention. Ça a été relevé, d'ailleurs, une intervention jurassienne n'a pas connu le succès à Berne récemment. Le PLRJ n'ayant pas de représentant à Berne, nous souhaitons demander au gouvernement jurassien s'il envisage ou s'il a déjà sensibilisé les parlementaires fédéraux jurassiens sur cette problématique, lui qui entretient précisément des relations régulières avec nos élus fédéraux. Je remercie le gouvernement pour sa réponse.
Merci, monsieur le député. Pour la réponse du gouvernement, je passe la parole à madame la ministre Nathalie Bartolo.
Monsieur le président... Mais Monsieur Doblet, pas Monsieur Warhol. Monsieur le Président, donc Mesdames et Messieurs les députés, vous faites écho à travers votre question aux récentes situations qui ont été mises en évidence dans la presse relative à l'augmentation des primes d'assurance perte de gain au sein de certaines entreprises qui seraient en lien avec l'accroissement des prestations liées à la maternité. Ces situations telles que rapportées sont effectivement inacceptables car, comme vous le soulignez très justement, elles pourraient constituer un frein à l'engagement de personnel féminin. En préambule, il est important de rappeler que la loi fédérale sur l'égalité entre les femmes et les hommes s'applique à tous les rapports de travail et elle précise clairement qu'il est interdit de discriminer les travailleuses et les travailleurs en raison de leur sexe, de leur état civil, de leur situation ou encore de leur situation de famille. Le gouvernement tient à préciser qu'au niveau cantonal, l'accession des femmes au poste de l'administration est une préoccupation constante depuis de nombreuses années. Depuis 2015, le nombre de femmes dans l'administration cantonale n'a cessé d'évoluer de manière positive et cette tendance doit se poursuivre. Cette volonté de promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes a été introduite à l'article 7 de la loi sur le personnel de l'État dès son entrée en vigueur en 2011. Depuis 2018, l'administration cantonale jurassienne a renforcé cette détermination et offre des conditions de travail favorables à la conciliation travail-famille, tout en tenant compte des besoins de l'organisation, comme par exemple la flexibilité du temps de travail, le travail à temps partiel, le télétravail ou encore la prise en compte de contingences familiales. Nous avons également mis en place des mesures spécifiques pour les femmes enceintes et les mères qui allaitent notamment, en prolongeant le congé d'allaitement de 4 semaines supplémentaires après le congé maternité, en octroyant 1 heure de congé payé pour l'allaitement par jour complet de travail au plus tard jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge d'un an ou encore l'aménagement de lieux calmes pour favoriser l'allaitement. Il paraît à tout le moins évident qu'en 2020, un employeur doive prévoir des conditions de travail qui ne défavorisent pas un sexe par rapport à l'autre, tant à l'engagement que tout au long du parcours professionnel. Nous avons entendu votre préoccupation, monsieur le député, concernant la hausse des primes d'assurance perte de gain dans certaines entreprises, au prétexte que plusieurs personnes ont été au bénéfice de prestations en lien avec la naissance d'un enfant. Ces motifs avancés pour justifier des augmentations de taux sont tout simplement inadmissibles et inacceptables. Il est de surcroît scandaleux que ce type de décision purement financière puisse pénaliser des femmes en engagement ou dans l'évolution de leur carrière professionnelle. Aussi, nous pouvons vous assurer que le gouvernement veillera à sensibiliser les parlementaires fédéraux jurassiens sur la problématique décrite lors d'une de nos prochaines rencontres.
Merci, Madame la Ministre. Quelle est votre appréciation, Monsieur le député ? Satisfait. Monsieur le député Gabriel Voirol est satisfait. Pour la 11e question orale, je passe la parole à Madame la députée Pauline Queloz.
Monsieur le Président, Madame et Messieurs les ministres, chers collègues. En date du samedi 11 janvier dernier, le tunnel de la Roche a refait des siennes. Un automobiliste m'a rapporté qu'alors qu'il circulait sur la H18 de Glovelier en direction de Saint-Bray, juste après avoir passé le tunnel de la Roche, un imposant morceau de rocher est tombé devant sa voiture. Le système de sécurité censé baisser les barrières en cas de mouvement dans cette roche ne s'est pas déclenché. La police a été avertie et s'est rendue tout feu allumé sur les lieux afin d'aller constater l'incident, ce qui prouve qu'il ne s'agissait pas d'un simple caillou sur la route, mais d'un détachement de roche important. En 2017, j'avais déjà posé une question écrite concernant 2 gros cailloux qui se trouvaient au milieu de la route à cet endroit. Le gouvernement m'avait fait savoir que l'État n'était pas responsable en cas d'accident dû à des chutes de pierres à la roche, dès lors qu'il estimait avoir pris toutes les mesures de sécurité nécessaires. Mais si même le système de sécurité, qui coûte d'ailleurs des dizaines de milliers de francs au canton, ne détecte même pas des mouvements aussi importants que le détachement de gros bouts de rochers, permettez-moi d'émettre des doutes sur la performance des mesures de sécurité prises par l'État. Imaginez, monsieur le ministre de l'Environnement, vous qui êtes un adepte de cyclisme, que vous passiez sur votre vélo à cet endroit et qu'un tel morceau de roche vous tombe dessus. Jugeriez-vous vraiment que cela peut arriver et que le canton a fait tout ce qu'il pouvait pour empêcher cet accident ? Personnellement, j'ai plutôt l'impression que ces barrières de sécurité qui ne se déclenchent jamais lorsqu'il y a des chutes de pierres inquiétantes ont été posées là dans le but de rassurer et de faire plaisir aux francs montagnards qui grognent depuis des années contre le tunnel de la Roche. Le gouvernement peut-il nous indiquer pourquoi le système de sécurité ne s'est pas déclenché le 11 janvier dernier et s'il estime vraiment, sincèrement, avoir pris toutes les mesures nécessaires afin d'éviter la survenance d'un accident ? Je remercie le gouvernement pour sa réponse.
Merci, Madame la députée. Pour la réponse du gouvernement, je passe la parole à Monsieur le ministre David Herret.
Madame la députée, la réponse est toute simple. Les rochers qui sont tombés ou les cailloux qui sont tombés, non pas le 11 janvier, mais le 18 janvier, d'après le rapport que j'ai reçu, aux alentours de midi, plusieurs cailloux sont tombés sur la route, dont un d'une dimension proche d'un ballon de ballon-pied ou de football en anglais. Donc ça vous donne un petit peu la dimension du caillou. Alors pourquoi le système ne s'est pas enclenché ou déclenché ? Simplement parce que le caillou qui est tombé, il est tombé d'une partie de la paroi ou de la pente sur laquelle il n'y a pas de système de détection. Le système de détection est situé ailleurs, là où il y a des possibilités d'avoir des mouvements du massif. Et c'est ce que le système doit détecter. S'il y a un mouvement du massif, à ce moment-là, il y a immédiatement fermeture de la route automatique avec les barrières. Pour le cas présent, il s'agit d'un aléa ponctuel hors de la zone mise sous observation, sous détection automatique, d'où le fait qu'aucun système n'a détecté ce caillou et a fermé des barrières. Par contre, comme vous l'avez dit, Madame la députée, la police a été informée et est allée immédiatement sur les lieux, preuve que le système de sécurité routière fonctionne bien. Elle a immédiatement enlevé ce caillou qui était dangereux pour les automobilistes, les cyclistes et autres usagers de la route. Même si le 18 janvier, il y a peu de cyclistes qui passent à la roche, hein, c'est plutôt en été. Et puis ensuite, le service des infrastructures est monté pour, bien évidemment, remettre la chaussée en état avec un coup de balayeuse. Et bien évidemment que nous n'en restons pas là. Un géologue a été dépêché sur place. Il a analysé l'origine de cette chute de pierre. Il a également observé qu'une purge était peut-être nécessaire au printemps. Et donc, une observation renforcée a été mise en place. Et au printemps, une analyse sera faite pour voir si une purge de cet endroit de la falaise est nécessaire ou pas, ou d'autres mesures de prévention. Mais dans tous les cas, nous traitons ce tronçon de route avec tout le sérieux qu'il mérite, puisque c'est un tronçon important au niveau du trafic entre les Franches-Montagnes et le reste du Jura, également, bien évidemment, pour la sécurité routière.
Merci, Monsieur le ministre. Quelle est votre appréciation, Madame la députée ? Madame la députée Pauline Queloz est partiellement satisfaite. Pour la 12e question orale, je passe la parole à monsieur le député Stéphane Teria.
Ma question traitait de la panne Swisscom du 17 janvier. Et par conséquent, Madame la ministre a déjà apporté des réponses à toutes mes questions. Je retire donc ma question.
Merci, monsieur le député. Pour la question suivante, je passe la parole à monsieur le député Fabrice Maca.
Fabrice Maca, député PS de Courroux.
Monsieur le Président, Madame et Messieurs les ministres, chers collègues, malgré le moratoire sur la 5G voté par le Parlement le 3 octobre dernier, des dossiers de mise à l'enquête sont publiés, encore à mi-janvier à Courgenay par exemple, avec l'adaptation d'un mât multi-opérateur de 21 antennes 3G à 5G. Ces antennes ont souvent une portée très importante et une distance maximale pour former opposition de plus d'un kilomètre. Par exemple, 1346 mètres pour le projet abandonné de l'antenne du stade de Halle, ou 998 mètres pour le projet d'antenne de Courgenay en cours de dépôt. Les mesures d'information légale de mise à l'enquête de ces antennes posent question. En effet, dans bien des cas, cette distance pour former opposition dépasse les limites de la commune où le permis est public, en raison de l'impact sur les habitations des communes limitrophes. C'est actuellement le cas pour le projet de Courgenay, où des habitations de Halle sont concernées. Ce cas aussi à Delémont, où l'adaptation de l'antenne de Belle-Rive à quelques mètres de Soyères concerne en fait tout le village de Soyer. Dans chacun des cas, l'installation n'est publiée que dans la commune où se situe l'antenne. Aucune mesure d'information ne permet aux ayants droit concernés des autres communes d'être informés. Dès lors, le droit d'opposition de tous les ayants droit est à notre avis biaisé lorsque le projet d'antenne est déposé et publié dans une commune et concerne une ou plusieurs autres communes. Alors que la technologie 5G est mise en œuvre sans accord de la population et en bafouant tout principe de précaution, quelles sont les mesures d'information applicables pour informer démocratiquement les ayants droit et quelles instructions le gouvernement donne-t-il dès aujourd'hui aux communes pour permettre le respect du droit d'opposition des citoyens concernés lors de tels projets? Je remercie le gouvernement pour sa réponse.
Merci, monsieur le député. Pour la réponse du gouvernement, je passe la parole à monsieur le ministre David Herré.
Voilà, monsieur le député, je ne peux pas vous répondre en détail sur tous les exemples que vous avez cités, mais un des derniers exemples avec la commune de Deliémont et la commune de Soyères, là, il est délicat au niveau du canton de se prononcer, puisque l'autorité compétente en termes de permis de construire est la commune de Deliémont, puisqu'elle est suffisamment grande pour gérer les permis elle-même, comme le sont d'ailleurs les communes de Haute-Saône et de Porrentruy. Donc pour ce détail-là, adressez-vous peut-être à la commune de Deliémont pour savoir quelle est la procédure qu'ils utilisent par rapport notamment aux communes voisines. Par contre, au niveau de la 5G en général, j'aimerais juste vous rappeler que la 5G, lorsqu'elle a été discutée au niveau fédéral, elle a provoqué au mois de septembre 2018 la création d'un groupe de travail qui devait donc analyser les valeurs limites adaptées en tenant compte dûment du principe de précaution. Donc c'est ce que le DETEC, la Confédération, a communiqué en septembre 2018. Et en février 2019, alors que le groupe de travail n'avait pas encore vraiment travaillé, ou en tout cas que commencé son travail, eh bien le DETEC, emmené par sa chef, Madame Somaruga, a vendu les concessions 5G pour 380 millions de francs, et bien évidemment que ces montants ont été encaissés par la Confédération et rien dans le canton du Jura. Donc la chef du DETEC a vendu les concessions sans attendre la fin du rapport, d'où la situation actuellement qui est confuse pour tout le monde, pour vous-même les députés, pour les autorités communales, pour les citoyens, pour le canton, pour les cantons au niveau suisse. Et ceci, je le regrette, cette communication un petit peu difficile de la Confédération crée ce problème, et d'autant plus que le 28 novembre 2019, le groupe de travail a rendu ses conclusions, et le DETEC a communiqué comme quoi le DETEC allait maintenant examiner le rapport et décidera de la suite à y donner. Ceci donc le 28 novembre 2019. Donc, monsieur le député, je pense qu'au-delà de votre question, finalement, de chaque permis, il y a également une question fédérale de savoir que va faire maintenant le DETEC au niveau de ce rapport et comment va-t-il donner suite aux inquiétudes relayées par vous-même aujourd'hui, par les citoyens, par les communes, par les cantons, et comment va donc le DETEC traiter ce dossier de façon claire, avec une communication claire pour rassurer les citoyens. Et je vous suggère, si vous avez des contacts avec la chef du DETEC, de lui demander d'intervenir et de rapidement clarifier les choses au niveau de la population suisse.
Merci, monsieur le ministre. Quelle est votre appréciation, monsieur le député? Monsieur le député Fabrice Maca n'est pas satisfait. Pour la question suivante, je passe la parole à monsieur le député Baptiste Laville.
Monsieur le président, mesdames et messieurs les ministres, chers collègues et chers collègues, le Parlement jurassien a déclaré l'état d'urgence climatique en mars 2019 et considère la lutte contre le réchauffement climatique comme un devoir de la plus haute priorité. En accord complet avec cette prise de position, des étudiants, des étudiantes, des écoliers, des écolières, des apprentis, mais aussi des moins jeunes, se mobilisent déjà maintenant dans toute la Suisse pour organiser la grève nationale pour le climat qui aura lieu le vendredi 15 mai de cette année. Cette démarche citoyenne et pacifiste revendique des actions et décisions politiques en faveur du climat. Suite au succès de la manifestation pour le climat de septembre 2019, avec ses quelques 100 000 personnes, la grève pour le climat du 15 mai s'annonce comme un événement important de l'année 2020. Le gouvernement jurassien, qui partage très certainement les mêmes inquiétudes concernant le climat, saura-t-il se montrer solidaire des grévistes de l'administration et des écoles qui iront manifester? Si oui, de quelle manière entend-il garantir que les personnes qui assument ainsi leur rôle de citoyens responsables ne soient pas pénalisées? Je pense particulièrement aux écoliers qui auront peut-être des épreuves. Je pense aux personnes de l'administration, de faire en sorte qu'elles ne soient pas pénalisées par les services de l'administration. Je remercie le gouvernement pour ses réponses.
Merci, monsieur le député. Pour la réponse du gouvernement, je passe la parole à monsieur le ministre Martial Courtais.
Monsieur le président, mesdames et messieurs les députés, chers collègues, bien sûr, une des façons d'agir pour le climat, c'est de sensibiliser notre jeunesse dans le cadre des cours, notamment de géographie, de sciences ou biologie, ou de toute autre branche finalement. Et c'est d'ailleurs bien sûr ce qui est prévu dans le cadre des différents plans d'études, que ce soit à l'école obligatoire ou post-obligatoire. Pour ce qui est de cette sensibilisation au rôle citoyen que vous évoquez, j'ai envie de simplement résumer ainsi. Nous tenons notre ligne, comme celle de l'an passé. En résumé, nous avons simplement suivi l'article 93 de l'ordonnance pour l'école obligatoire qui prévoit que 2 demi-journées de congés sont possibles, sans autre justification. Donc c'est dans ce cadre-là que les élèves peuvent s'y rendre. Nous ne souhaitons pas augmenter ce nombre de demi-journées, tout simplement dans un souci de qualité de l'enseignement. Donc, à ce stade, de nouveau, nous maintenons notre ligne. Pour ce qui est du post-obligatoire, par effet de miroir, nous allons procéder de la même façon, comme l'année passée. Je peux juste vous préciser encore que nous avons été facilitateurs dans un cas, au niveau d'un examen qui était effectivement prévu le 15 mai, et nous l'avons déplacé le 18 mai. C'était au niveau des instruments et ça se passait au lycée cantonal.
Merci, monsieur le ministre. Quelle est votre appréciation, monsieur le député ? Monsieur le député Baptiste Laville est partiellement satisfait. Pour la question orale suivante, je passe la parole à monsieur le député Yves Gigon.
Yves Gigon, député indépendant de Courgenay.
Monsieur le président, madame, messieurs les ministres, chers collègues, nous avons appris que la moitié des communes jurassiennes n'ont pas pu présenter le budget 2020 dans les délais. Elles n'ont pas pu se familiariser assez tôt avec le nouveau système comptable MCH2, malgré l'engagement sans faille des receveurs et caissiers communaux. Le canton, à mon sens, a sous-estimé la charge de travail pour les communes dans l'application de ce nouveau système MCH2. D'où ma question, est-ce que le canton n'a pas négligé l'accompagnement des communes dans la mise en place de ce nouveau système comptable ?
Merci, monsieur le député. Pour la réponse du gouvernement, je passe la parole à monsieur le ministre Martial Courtais.
Oui, monsieur le président, mesdames et messieurs les députés, chers collègues, non, cela n'a pas été négligé. Conscient de ces enjeux, les informations ont été données aux communes et aux bourgeoisies dans un courrier déjà en novembre 2017. Ce courrier est parti de la part du délégué aux communes. Pour rappel également, en 2018, un groupe de travail et un séminaire MCH2 ont été organisés. En 2019, c'était une séance d'information et je peux vous préciser également que le délégué aux communes a répondu à de nombreuses questions des administrations communales également en 2019. Il est vrai, quelque chose ou plusieurs événements ont quand même complexifié un peu la situation de certaines communes. Certaines ont d'ailleurs dû attendre sur leur fournisseur informatique, ça a été une réalité. D'autres, à juste titre, ont profité de changer de logiciel, profité de cet événement. Mais pour conclure, on peut dire que contrairement à d'autres cantons, le Jura a voulu ce changement en une année, dans un souci d'avoir des chiffres comparables pour l'année 2020, au niveau des statistiques notamment. C'est vrai que ça n'a pas été le cas dans tous les cantons. Certains cantons ont laissé plusieurs années, sur 2 ou 3 ans par exemple. Donc le choix jurassien a été de faire ce changement en une année, quand bien même ça a été annoncé à l'avance. Mais je voudrais terminer sur une note positive par rapport à cela, puisque toutes les communes auront donc un budget MCH2 à mi-mars 2020, et ce, vous le rappeliez, grâce au travail important des administrations communales et notamment des caissiers communaux que nous profitons de féliciter à cette occasion.
Merci, monsieur le ministre. Quelle est votre appréciation, monsieur le député ? Monsieur le député Yves Gigon est satisfait. Pour la question orale suivante, je passe la parole à monsieur le député Yvan Godin.
Yvan Godin, député des Verts.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les députés, madame, messieurs les ministres, ma question porte sur le même sujet que celui abordé par Fabrice Maca, mais on aborde un autre aspect. Le 31 octobre dernier, ce Parlement a donné un signal fort en acceptant par 35 voix contre 20 et 4 abstentions d'introduire un moratoire sur l'installation de nouvelles antennes 5G sur le territoire cantonal, au moins jusqu'à la publication des conclusions de l'étude mandatée par l'OFEV et à la levée des doutes quant au risque sanitaire de cette technologie. Depuis, les conclusions de cette étude ont été publiées, mais les doutes n'ont de loin pas été levés. Comme on a pu le constater à la lecture du QJ du 23 janvier dernier, la pression des opérateurs n'a pas baissé, loin s'en faut. Ils continuent leur prospection auprès de communes et de privés, Grandfontaine et Basse-Alène en l'occurrence, pour ce qui concerne cet article. L'inquiétude dans la population et la mobilisation contre cette marche forcée ne fait que croître. Toujours en ce début d'année, la RTS nous apprenait qu'en à peine un mois, le nombre d'antennes 5G en service en Suisse était passé de 700 à 2329. Entre parenthèses, ce chiffre datant du 14 janvier, on est à coup sûr bien au-delà à l'heure où je vous parle. Je laisserai d'ailleurs au ministre le soin tout à l'heure de nous préciser le nombre exact d'antennes 5G en service sur le territoire cantonal à l'heure actuelle. Comment un tel boom a-t-il été possible en si peu de temps? La réponse est simple, en émettant les ondes 5G depuis des antennes existantes, ce qui évite de passer par la procédure de permis de construire. Avec ce type de procédé, l'application du principe de précaution qu'a souhaité notre Parlement dans sa large majorité en fin d'année passée est bafouée. Ayant à l'esprit la décision récente du Conseil d'État neuchâtelois de soumettre à permis de construire toutes les nouvelles adaptations, même mineures, d'antennes de téléphonie mobile à la 5G, je souhaite poser au gouvernement la question suivante. Qu'entend-il mettre en œuvre pour appliquer pleinement dans ce dossier de la 5G le principe de précaution tel que voulu par le législatif cantonal en octobre dernier? Je remercie le gouvernement par avance pour sa réponse.
Merci, monsieur le député. Pour la réponse du gouvernement, je passe la parole à monsieur le ministre David Herré.
Monsieur le député, votre question est très précise, finalement. Qu'entend mettre en œuvre le gouvernement? Alors, effectivement, vous avez bien résumé la situation avec un rapport qui a été rendu et qui, vous avez certainement lu le contenu, ne présente pas vraiment de ligne claire et rassurante pour la population. Donc, une partie de la motion est réalisée puisque le rapport est là. Mais la deuxième partie de la motion, qui demande à ce que la situation soit claire et rassurante pour les gens, ne l'est pas aux yeux du gouvernement, en tout cas pas actuellement. D'où le fait que le gouvernement a décidé d'écrire à madame la chef du DETEC, madame Somaruga, pour lui demander finalement dans quel délai rapide elle entend prendre position par rapport à ce rapport et donc, en prenant position, rassurer l'ensemble de la population suisse. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose concerne votre interpellation ou votre question au niveau technique. Vous sous-entendez que des antennes ont été mises en service par des moyens qui ne semblent pas clairs à vos yeux. Il faut savoir que certaines antennes qui datent de plusieurs années ont donc été érigées en toute conformité légale avec des critères techniques qui ont été définis dans le permis, notamment la fréquence utilisée, la puissance d'émission et tous ces paramètres techniques. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la 5G, ce n'est pas juste une technologie, c'est une technologie avec plein de possibilités technique, au niveau notamment de la puissance et des faisceaux émis, etc. Alors ce qui se passe, c'est que certaines antennes antérieures à la 5G ont reçu un permis dans lequel les critères techniques qui ont permis de donner ce permis permettent aux opérateurs de mettre en œuvre ou d'allumer les faisceaux 5G sans qu'il y ait finalement dérogation au permis reçu. Donc il y a des antennes 5G qui ont été mises en activité en totale conformité avec les permis reçus il y a même déjà plusieurs années. C'est ce qui explique également que, par exemple, à Genève, qui prétend avoir mis un moratoire complet sur la 5G, il y a plusieurs centaines d'antennes actives actuellement, et on peut quasiment dire que le territoire du canton de Genève est totalement couvert par la 5G, alors que les élus politiques de ce canton disent que, finalement, un moratoire est en vigueur depuis toujours au niveau de la 5G. Donc on a la même situation dans le Jura, où on a des antennes qui ont été activées, conformément au permis reçu. Et à ma connaissance, or je n'ai pas le chiffre précis, mais il y a environ une dizaine d'antennes qui sont actives actuellement dans le coteau du Jura, et ceci finalement sans avoir enfreint une quelconque réglementation au niveau des opérateurs, d'où le courrier que nous avons envoyé à la chef du DETEC pour qu'elle clarifie rapidement la situation aux yeux de la population et que la population finalement soit aussi rassurée par les précautions que prendra le DETEC au niveau des puissances, des fréquences de rayonnement de cette technologie, qui est également, il faut le dire, attendue par une partie de la population, et notamment une branche économique qui semble en avoir besoin pour le développement de certaines activités.
Merci, monsieur le ministre. Quelle est votre appréciation, monsieur le député? Pas compris. Monsieur le député, Yvan Godin n'est pas satisfait de la réponse du gouvernement. Pour la 17e et dernière question orale, je passe la parole à monsieur le député Raoul Yagui.
Raoul Yagui, député indépendant de Bâche.
Monsieur le président, chers collègues, madame, messieurs les ministres, les logiciels libres sont à l'informatique ce que les médicaments génériques sont à la médecine. Pas de licence à payer pour un logiciel plus sûr qui aura les mêmes fonctions que celui de l'éditeur et dont les mises à jour sont également gratuites. L'équation est séduisante à l'heure où les finances publiques sont mises à mal. Ici, j'aimerais ne parler dans un premier temps que des écoles jurassiennes et de la suite Microsoft Office comprenant les logiciels de traitement de texte et tableurs que sont Word et Excel. L'achat des licences de cette suite logicielle coûte cher aux écoles jurassiennes et donc à nos communes et aux cantons, ainsi d'ailleurs qu'aux parents qui achètent évidemment le même logiciel que celui de l'école. Dans plusieurs lenders allemands, les écoles et l'administration sont déjà de longue date passées à une suite logicielle libre, OpenOffice ou LibreOffice, qui contiennent les logiciels clones de Word et Excel. Récemment, le Land de Hesse a même interdit l'utilisation des logiciels Microsoft. La ville de Rennes, en France voisine, a choisi en 2018 de remplacer Outlook par un logiciel libre et annonçait ainsi économiser 500 000 euros. Le CERN a débuté il y a un an le projet MALT, Microsoft Alternative, dans le but de passer au logiciel libre et ceci pour faire des économies. Mon voisin, monsieur le député Hénin, utilise également la suite libre avec laquelle il rédige ses interventions pour la tribune de notre Parlement. Vous savez donc que cela fonctionne. Ma question, l'État ne devrait-il pas, pour toutes ces raisons, demander aux écoles jurassiennes de choisir la suite logicielle libre OpenOffice ou LibreOffice en lieu et place de la suite commerciale payante Microsoft Office? Je remercie le gouvernement de sa réponse.
Merci, monsieur le député, pour la réponse du gouvernement. Je passe la parole à monsieur le ministre Martial Courtais.
Merci, monsieur le président, mesdames et messieurs les députés, chers collègues. L'idée est bien sûr séduisante, monsieur le député, mais la situation est un petit peu différente en Suisse, notamment dans le Jura, fortiori, par rapport à ce qui se passe dans les lenders allemands que vous évoquez. En effet, donc, en Suisse, nous disposons d'accords cadres, et notamment entre la CIP et Microsoft, pour la mise en place de suite Office dans les écoles. Et ce, d'ailleurs, en accord avec le groupement des préposés fédéraux à la protection des données. Et dans ce sens, c'est vrai qu'il y a un élément important, c'est que ces données sont stockées en Suisse. C'est pourquoi donc, le service de l'enseignement, en lien bien sûr avec nos partenaires dans le cadre de la CIP, nous avons choisi Office 365. Solution qui, en outre, a l'avantage de permettre de se connecter avec un seul identifiant aux diverses sources pédagogiques et aux logiciels de gestion scolaire. Merci de votre attention.
Merci, monsieur le ministre. Quelle est votre appréciation, monsieur le député? Monsieur le député Raoul Yegui n'est pas satisfait. Nous pouvons passer au point 5 de notre ordre du jour, le point 4.
Voilà, c'en est fini de cette heure des questions orales ici au Parlement jurassien. Vous les retrouverez toutes en podcast sur notre site rfj.ch dans le courant de la journée. Belle journée à tous.